Merci beaucoup, Patrice. Je suis très satisfaite et heureuse d'être ici et de pouvoir partager ce colloque avec mes collègues brésiliens qui ont participé de cette recherche. Je voudrais en profiter de l'occasion pour remercier Cintia Okamura publiquement, parce que nous avons tout travaillé avec ce corps d'entrevue qu'elle a fait. Et je voudrais la remercier pour sa générosité en nous offrant son corpus. Et ce n'est pas toujours comme ça dans les milieux académiques, alors c'est un plaisir de pouvoir le faire. Et je voudrais remercier également Jean-Paul Thibault pour nous avoir invités à participer de ce projet. Commençant par cette analyse, de cette discussion que je vais présenter maintenant, je voudrais d'abord soulever une première tentative pour rapprocher la question du langage de la thématique des ambiances. Une première tentative pour moi, bien sûr. Ça fait partie des consignes de la recherche dirigée par Jean-Paul, mener une discussion épistémologique, conceptuelle, épistémologique, etc., de la notion d'ambiance à partir de tous les plans disciplinaires et des réalités urbaines dans chaque pays, et donner un corps à cette discussion à partir de l'analyse de terrain faite en chaque place publique. Et j'espère arriver à l'analyse et pouvoir vous donner des exemples de ce que j'essaie de faire. Je vais commencer par deux provocations, comme je l'avais déjà annoncé, qui sont deux affirmations. La première est que l'ambiance n'est pas un phénomène pré-linguistique, et la deuxième est que l'expérience humaine n'est pas un phénomène immédiat. Ensuite, je vais essayer de justifier cela pour montrer que derrière ces divergences entre l'analyse du discours dans lequel je travaille et la vision phénoménologique qui soutient cette idée de l'ambiance, il y a des convergences qui sont fortes, qui peuvent se résumer en deux points. Le premier est la reconnaissance de l'analyse dans l'analyse du discours et dans la conception de l'ambiance de la dimension pré-réflexive des ambiances non consciente des ambiances, qui est liée à la critique de la vision rationaliste de la humaine de ses recherches. Et le deuxième point, c'est la supposition du caractère matériel de l'espace urbain et des sujets qui le vivent, et est liée au retour vers le concret qui, comme dit Jean-Paul Thibault, marque ses recherches sur les ambiances. Je vais commencer cette discussion par la polysémie du mot sensible qui est en jeu ici quand on utilise l'expression perception sensible des ambiances. Et pour cela, je vais reprendre. Non, et c'est à partir de cela que je voudrais définir ce que je considère ou ce que je définis comme partage, pour que nous puissions penser au sujet de notre intérêt, qui est justement des ambiances partagées. Pour cela, je voudrais vous présenter une idée de Jean Dieu, discutée par Jean-Paul Thibault. Le fait que la perception sensible, d'après Thibault, est inséparable du sens donné à une situation par ce que dû à l'étymologie du mot sensible, qui nous remet à ce qui est de l'ordre de la sensibilité et de la signification. En même temps, le sensible est de nature historique et sociale, ce qui s'oppose à une vision psychologiste et empiriciste du phénomène. Et donc, toujours d'après Jean-Paul Thibault, la traduction en français est en bas. Ce qui est perçu, ce n'est pas l'ensemble de stimulations discrètes soumises à la suite à un travail d'intégration du cerveau, mais bien plutôt des objets et des événements d'ores et déjà dotés de signification inscrits dans une histoire et un contexte. avec cette question de la signification, nous pouvons déjà entrevoir le rôle du spécialiste du langage dans la réflexion du phénomène des ambiances. En même temps, je voudrais appeler votre attention sur le fait qu'avec ce geste, nous nous remettons à l'expérience politique humaine comme phénomène qui est lié aux injonctions institutionnelles caractéristiques de nos sociétés, comme nous pouvons voir par la définition de Dieu et des habitudes que Jean-Paul Thibault, dans laquelle Jean-Paul Thibault, ou sur laquelle Jean-Paul Sebastien se base pour caractériser l'ambiance comme un phénomène partagé. Les habitudes qui mobilisent nos façons de penser, de percevoir les choses, de nous mouvoir, de penser, seraient des réponses collectives à des stimulus du monde de caractère anonyme et non conscient qui sont inscrits d'une façon ample dans un ensemble d'habitudes et d'institutions qui sont habituelles à une forme de société.
Et là, nous arrivons à un possible sens du terme sens, qui est sens associé à la question de la direction qui se dirige vers un certain endroit. Et là, si nous nous fondons sur une définition du langage comme un phénomène politique, dû que la signification des mots ont une dimension, nous pouvons penser, définir ambiance comme unité sensible, pensant aux trois sens de sensibilité, signification, direction, que ambiance est une unité sensorielle, significative et politique en même temps. Et c'est en ce sens que nous pouvons définir quelle serait notre idée de partage, parce que partage nous renvoie à ce qui est commun et ce qui est partagé. Donc, nous partageons un espace commun, mais partagé inégalement, puisque ce partage est politique, dépend des rapports de pouvoir. Et là, nous nous rappelons de la définition de politique, dont il y a une division du réel et les exclus doivent affirmer leur appartenance. Il me semble que c'est important d'éclaircir que nous partageons un espace commun, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un accord ou un consensus entre nous qui le partageons, mais un désaccord ou, nouvellement, une méconnaissance, une mésentente, pardon. Penser à une construction d'un espace commun signifie donc non la possibilité du consensus entre ceux qui le partagent. Nous pensons à y compte, parle de consensus comme penser et sentir commun qui fonderait les liens sociaux. Penser à la construction d'un espace commun, vivre ensemble, et penser à la possibilité, et nous a rappelé de Rancière Hagen, de nouveau, il nous faut penser à un espace de litige, à un espace qui puisse permettre de construire et conduire ce litige. Là, je ne vais pas parler beaucoup sur la présentation de ce dispositif théorique, méthodologique de l'analyse du discours. Je vais simplement montrer certains aspects qui sont importants pour ensuite passer à l'analyse. Comme je vous l'avais déjà expliqué le premier jour, nous, dans le laboratoire d'études urbaines, analysons la ville comme un objet de langage à travers la méthodologie de l'analyse du discours. Et nous présupposons une relation constitutive entre langage, sujet, monde, entre sens, perception et espace. Si la définition phénoménologique d'ambiance se fonde sur une idée que les rapports entre sujet et espace est indissociable, nous défendons que le langage intervient aussi dans cette relation de monde constitutif. Le langage est un élément constitutif dans la production des ambiances, et si nous reprenons la définition de Jean-François Goyard dans la définition de l'espace urbain, si nous pensons à l'espace urbain comme quelque chose de produit et nous pensons au langage dans la production symbolique de l'espace urbain. Le point névralgique qui va supposer cette relation dans ce niveau constitutif de la production des ambiances, il est nécessaire que nous reprenions le langage du niveau de la représentation consciente et catégorielle, comme nous l'a dit Jean-Paul dans sa présentation. Donc, de notre point de vue, selon notre point de vue, la définition de langue, la langue est la base matérielle des procès discursifs de nature historique et sociale, et donc où interviennent les déterminations de l'inconscient et de l'idéologie. C'est un peu long, mais ceci veut dire que le langage ne fonctionne pas à un niveau de représentation consciente, mais à travers des oublis dans leur fort sens, des facteurs sociaux, historiques, politiques qui la déterminent. Si nous reprenons notre discussion pour dialoguer avec les paroles de Dewey et Thibault, avec lesquels nous avons commencé, si la perception sensible pour Dewey convoque le travail d'interprétation et d'attribution de sens, nous défendons que ces sens sont matériels et se retrouvent à travers la matérialité de la langue. Et c'est ainsi que nous avons une position matérialiste des sens qui s'oppose à ce que les idéalistes disent, que les sens sont constitués antérieurement au langage et seraient véhiculés seulement par le langage. Nous dirons, en faisant ce dialogue avec Dewey, que les sujets perçoivent les objets et les événements du monde non d'un geste individuel fait par des stimuli neuropsychologiques, mais à travers des sens qui se trouvent préalablement dans l'histoire selon les conditions politiques, économiques, culturelles de la société où l'on vit, sens, et nous ajoutons, qui sont produits par la matérialité linguistique. Donc, c'est ce travail d'interprétation qui est fourni par l'oubli et le politique que nous appelons de mémoire discursive ou interdiscours, comme ensemble de paroles de dire établies dans une société et qui institue dans les paroles de Michel Péchaud un système de vidance et signification perçue et acceptée, expérimentée par tous. Donc, ce concept de mémoire, je voudrais le travailler comme une notion pertinente pour pouvoir penser à la question des ambiances. La perception sensible, dans ce sens spécifique, ne serait pas un phénomène direct, immédiat, mais médié par une interprétation particulière, constituée historiquement, dans laquelle le sujet s'inscrit de façon non consciente à travers la langue. La mémoire discursive. La mémoire discursive présente dans notre compréhension comme une notion pertinente pour mettre en opération de façon théorique et analytique la reconnaissance du caractère historique et politique des phénomènes perceptifs comme présupposé dans les études d'ambiance. Ici, nous reprenons les paroles de Jean-Paul Thibault quand il nous dit, et elles sont traduites au début, nos façons de sentir, de qualifier une situation seraient filtrées par les injonctions sociales relatives au fonctionnement d'une société dans son ensemble. J'ai encore 6 minutes, tant mieux. Bon, maintenant je vais passer rapidement. Très rapide. Donc, je me retrouve dans la moitié de ce que je devais dire. Et donc, J'avais proposé, pensé à cette question de mémoire discursive et pensé à l'opposition publique-privée comme un mode historique de partage de l'espace qui va affecter la perception du mouvement dans l'espace urbain. C'est dans ce sens que cette position publique-privée va ressonner et il reprend Rainer, va ressonner dans la mémoire du sujet et affecter la perception de l'espace. Et c'est ainsi que nous pouvons penser que dans les villes que nous dites, nous disons occidentales, nous avons la question du mouvement, je la vois dans un sens large. Jean-Paul Thibault nous a justement expliqué que les qualités du mouvement du public peuvent être considérées une expression possible de l'ambiance. Une question que nous pouvons nous faire par rapport à l'espace analysé est comment les sujets qui y habitent bougent et quelle est leur perception à propos de cela. Et si nous pensons au mouvement dans le sens large comme un structurant de la ville, élément structurant, l'organisation interne de la ville, ces divisions correspondent à des modes historiques que certaines sociétés ont établis pour s'asseoir sur l'espace, pour se fixer et circuler. Mais selon lui, selon des modalités de rencontre qui sont motivées par des normes spécifiques de socialité. Nous avons des espaces privés associés à des logements familiers, comme par exemple des endroits pour se fixer, et des espaces publics aussi pour penser. Nous avons alors un square, un espace public pour pouvoir circuler, se retrouver avec les normes de comportement public, et la maison et l'appartement comme un espace privé pour y habiter, loger, associé à une idée d'intimité. Et ces idées de public et privé, dans le sens que public et privé vont prendre pour la tradition occidentale à partir de la tradition grecque, comment elles vont être associées à l'idée de la propriété privée avec l'émergence du capitalisme et à une certaine idée d'intimité, nous voyons qu'ils se trouvent imprimés dans ces sens. Pour pouvoir comparer cette question historique, nous pouvons associer l'espace privé, le logement d'une famille et à certains comportements comme par exemple réaliser des activités sexuelles en public. Nous avons un espace, par exemple une tribu indienne, nous avons des logements collectifs. Nous pouvons voir ici sur les photos comme des logements collectifs et qui au début de la colonisation, enfin au moins certainement aussi au début, étaient des logements pour plusieurs familles sans divisions internes et ce qui est considéré comme intimité et même les missionnaires ont pris ces partages pour des questions morales et la sexualité qui était enfin, sans aucun genre de protection de cette intimité a changé. Bon, je crois que je ne serais pas capable de vous présenter mon analyse linguistique, mais je veux vous raconter pourquoi est-ce que j'ai travaillé cette question pour analyser l'unité de l'ambiance de ces espaces décrits par Cynthia dans son travail. Il y a un sens commun, partagé, une perception commune que cet espace est décadent et se trouve en état détérioré. La façon dont j'ai mobilisé ceci, cette détérioration ou le sens attribué à cette décadence, cet abandon, a un lien avec cette mémoire qui se trouve touchée par le public privé. Nous avons des STF qui se trouvent dans des endroits publics et qui vont avoir un impact sur la configuration architectonique de la ville et vont difficulter, entre guillemets, la circulation des personnes, réalisant des travaux qui devraient être faits dans l'intimité, comme par exemple dormir. C'est une image qui, disons, m'a éveillée, cette hypothèse. Une question où il y a une rationalisation postérieure, moi, ma mienne, de chercheuse, de cet impact immédiat produit par cette image qui, en vérité, est un lit qui est défait en plein espace de circulation, une chaussée, comme une superposition de ce qui devrait être dans une chambre, dans l'intimité d'une chambre d'un lit, ou alors ses vêtements qui montrent quelqu'un qui vient de se changer et laisser ses habits par terre. Et bon, alors pour résumer, la question que nous nous posons, c'est que le square ainsi que les rues de ces endroits de rencontre et de circulation sont devenus des endroits de logement et ces images qui sont un symptôme de la désagrégation des frontières entre le public privé et qui vont instituer une esthétique, une tonalité, comme le dit Thibault, à cet espace et qui va être qualifié de décadent. Donc nous avons le problème des équipements urbains qui sont employés d'une autre façon. Et là, on reprend ce que Marhain avait déjà expliqué dans des situations différentes. C'est un emploi non prévu de ces équipements. Et les personnages de conflit sont justement ceux qui produisent cette incursion dans du domaine public par le privé, ces STF qui se fixent dans ces endroits, ces homosexuels prostitués qui font sexe en public et donc ils vont faire quelque chose d'interdit, et les colporteurs qui font leur commerce est illégal dans ces espaces publics. Donc les complaintes, c'est qu'on ne peut pas circuler sur les voies publiques. Et une intrusion dans le domaine privé de la propriété, donc les STF, les sans-logis qui se fixent de manière illégale dans ces endroits et donc sont vus comme des invaseurs. L'analyse que vous pourrez lire, parce que tous ces articles seront publiés en France par Jean-Paul Thibault et aussi en Allemagne et au Brésil. J'ai analysé que comme à partir de cette piste, de cette image qui m'a permis de faire le lien entre les questions micro très particulières à des processus historiques plus larges, comme cette mémoire de cette opposition public-privé associé à cette question de la circulation, de se fixer et de se rencontrer, vont avoir une conséquence sur cela. Parce que dans l'analyse que j'ai faite, que je ne vais pas pouvoir vous présenter, j'allais vous montrer qu'ils vont même avoir un impact sur la désignation d'habiter et d'habitant, parce qu'habitant est celui qui habite et qui vraiment correspond à certains requis économiques. Il habite dans les endroits qui sont particuliers et il correspond à ces requis économiques et juridiques. Et là, on va justement exclure les SDF et les invaseurs. Donc, ce n'est pas résidre dans un endroit fixe, comme on retrouve dans le dictionnaire, c'est ne pas habiter, mais la perception de la légitimité de vivre, de résider dans cet endroit fixe. Et la question encore plus importante du habiter. Donc les SDF, le nomadisme urbain, qui est la question de que la grande instabilité dans la désignation de cet habitat est très instable. Donc, et ceci se passe dans les interviews, c'est vivre, se trouver au-dessous ou au-dessus, ou simplement rester un tout petit temps, dormir, boire, manger, cuire, faire le camping, enfin, ou alors simplement pouvoir faire le recyclage des choses. Donc tout ceci sont des synonymes et même des métaphores de se habiter. Donc le fait que le SDF a un impact sur la ville parce qu'il va occuper cet espace en opposition au nomadisme, donc le nomadisme non pas dans le champ mais dans la ville, et ceci, mais les SDF même n'ont même pas comme nommé cet être vivre dans cet espace, ce que signifie vivre dans la porte par exemple près du rez-de-chaussée d'un immeuble. Donc c'est cette difficulté de les dictionnaires, les définitions des dictionnaires et les références des interviews données par les habitants qui me mène à conclure. Bon, là je vais conclure. La difficulté de nommer cette façon précaire, instable de se fixer dans un espace montre que l'organisation matérielle de la ville correspond à un ordre urbain fondé sur une idée de s'installer où ce genre de nomadisme n'a pas de place. Donc, ceci va créer l'impossibilité d'identifier cet individu dans un espace, dans un endroit où il n'habite pas. Et je pense là à une discussion postmoderne. Eu posso falar em português, se vocês preferirem. Posso falar francês?
Não dá para ouvir.
Bom, já completei. Eu estou repetindo que isso produz. Isso é o que eu viens de dizer, justement. E eu vou repetir em francês. D'accord, ça va? Cette difficulté que je ne suis pas arrivée à résoudre produit ce que j'appelle un non-lieu où il n'habite pas. Et là, je pense à la discussion de la postmodernité, du non-lieu, etc. Mais surtout dans un sens très lato où on peut voir la traduction, et je vais seulement citer. Où il y a l'intervieweur, Cynthia, qui fait la question pour demande à J.E. Et ah bon, oui, j'habite. Non, vraiment, je n'ai habité en aucun endroit. Et mais qu'est-ce que tu vas montrer? Qu'est-ce qui te semble important? Bon, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Je n'ai pas habité cet immeuble, je n'ai pas habité là, je n'ai pas habité parce que c'est tout très joli. Et là, je conclue ma présentation. Je voudrais remercier votre attention. Merci.